les boomers, ces adultes issus du baby boom accusés d'avoir profité de la vie de manière complètement égoïste et de laisser aux jeunes une planète dans un état bien dégradé. Ils ont vécu les 30 glorieuses quand on a connu que la crise, le chômage.
Ils ont modelé la société à leur image pour eux autres, pour leur bénéfice à eux autres, quitte à ce que toutes les générations qui viennent après en bavent.
Et ça sent le jeune en colère face au baby boomer tranquille.
Ok boomer, cette expression utilisée par les nouvelles générations pour signifier aux anciennes qu'elles sont complètement dépassées à côté de la plaque, cette expression fait aujourd'hui écho à un sentiment plus général, sentiment exacerbé par les tensions autour de la réforme des retraites et de l'urgence climatique, selon lequel la génération des baby boomers serait une génération de privilégiés, génération égoïste qui aurait profité sans compter, qui laisserait aujourd'hui aux générations futures non seulement une planète en ruine, mais une société inégalitaire dont ils auraient usé et abusé. Bonjour Hippolyte Dalbis.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS, professeur à l'école d'économie de Paris. Est-ce que les baby-boomers sont donc une génération de privilégiés ?
Que les baby-boomers vivent mieux que ceux qui sont nés avant la guerre, en soi, c'est pas un souci. Mais donc la seule question, c'est de savoir s'il y a une inégalité avec les générations qui suivent. On a oublié ce que c'était que le passé. Et je dirais même que les baby-boomers participent à ça. Il n'y a pas seulement, vous voyez, ce que vous évoquiez, une espèce de guerre entre les générations, mais même beaucoup de baby-boomers vont vous dire « oui, c'était mieux avant ». Oui, c'est plus difficile pour les jeunes que ça ne l'était de notre temps. Ben pourtant, ça, je pense pas que ce soit vrai.
Il y a quand même beaucoup d'endroits où on se dit que c'était plus facile de faire son chemin dans la société, de grimper d'un cran dans l'échelon social quand on est rentré dans le marché du travail sur les années 70 que quand on est rentré sur le travail dans les années 2000.
Si on compare aujourd'hui par rapport à 1960, la consommation par tête que chacun consomme en moyenne, vous voyez, dans la société, est trois fois plus élevée. En 1960, le taux de bachelier, c'est 11% de la population. Donc on a beau dire, vous voyez, on continue à dire le niveau baisse, etc. Mais non, c'était beaucoup plus bas avant. En 1960, l'espérance de vie était 20% plus faible. Non, globalement, on a bénéficié d'un progrès et toutes les générations en bénéficient. Les générations vivent mieux.
Si on prend le marché de l'emploi dans les années 70, on est sur le plein emploi, on est donc du coup sur une politique salariale qui est très différente puisque le salaire est attractif pour permettre d'attirer des gens d'un emploi vers l'autre. Ça a radicalement changé.
Chaque génération va faire face à des défis qui lui sont propres. Vous voyez, les défis des générations actuelles, qui peuvent être notamment l'insertion sur le marché de l'emploi, mais attention, insertion sur le marché de l'emploi de ceux qui n'ont pas fait d'études. Vous voyez, l'insertion sur le marché de l'emploi de ceux qui ont fait des études, elle est globalement bonne. Il peut y avoir des gens qui ont fait des études et qui ne trouvent pas, mais
si on est extrêmement minoritaire. Oui, enfin, si on parle par exemple d'un secteur que je connais bien, à savoir celui de la recherche, pour des gens qui ont fait des doctorats, l'insertion sur le marché du travail, elle est compliquée, elle est longue, elle est sur des niveaux de rémunération qui sont très bas.
Je suis désolé, mais 80% des chômeurs, vous voyez, ils n'ont pas un niveau supérieur au bac. Le chômage, ça reste une problématique de ceux qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas fait d'études supérieures. Ça ne veut pas dire que c'est rien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, en effet, quelqu'un qui n'a pas fait d'études va avoir beaucoup plus de mal à s'insérer dans notre économie numérisée, mondialisée, etc. Ce n'était pas le cas dans les années 60. Il y avait beaucoup moins de bacheliers, mais les gens trouvaient un emploi. Les sociétés sont différentes, hein, et les problématiques sont différentes. La problématique, en effet, du changement climatique, ça n'était pas une des années 60.
Alors, prenons d'autres marqueurs. Par exemple, celui de l'immobilier. L'immobilier, effectivement, il était facile dans les années 60, 70, jusque dans les années 80, d'acquérir un bien immobilier en début de carrière. Et ces générations, ces baby-boomers, ils ont profité du boom de l'immobilier. C'est-à-dire, ils pouvaient revendre très rapidement des biens qui prenaient beaucoup de valeur. Et aujourd'hui, il est devenu, dans les grandes agglomérations, quasiment impossible de devenir propriétaire quand on est jeune.
Voilà, il y a la question des grandes agglomérations. Il y a un sujet immobilier, il y a un sujet logement des jeunes, hein, qui est un vrai sujet. Il faut bien voir que le bien immobilier n'est pas le même, hein. Il a beaucoup changé. Dans les années 70, la part d'appartements à Paris qui n'ont pas de toilettes, par exemple, est très importante. Les biens se sont améliorés. On n'achète pas la même chose. Et en effet, il y a le cas très particulier, vous voyez, de la difficulté de l'accès au logement à Paris et dans certaines grandes métropoles régionales. Mais ce n'est pas le cas général en France. Il y a, avec cette question de l'immobilier, il y a une vraie problématique intergénérationnelle. Parce qu'en effet, naître dans une famille où il y a déjà des biens immobiliers, où il y a déjà du patrimoine, donne l'accès, finalement, aux plus jeunes, aux générations suivantes, hein, par des transferts intrafamiliaux au marché immobilier. Et à la proximité avec non seulement des bonnes écoles, mais aussi des marchés de l'emploi. Donc il y a une véritable transmission intergénérationnelle des inégalités qui passe par l'immobilier. Maintenant, je vais dire encore une fois, je vais revenir là-dessus, c'est quand même pas les baby-boomers qui ont fait monter les prix immobiliers. Maintenant, ça peut être lié avec certaines politiques, et notamment certaines politiques monétaires, et je pense qu'il est urgent de faire en sorte que justement le marché immobilier soit plus accessible et de faire en sorte que de modérer les prix immobiliers.
Puisque vous parlez des inégalités sociales, Hippolyte Dalbis, peut-être justement aussi un mot là-dessus, puisqu'on a beaucoup parlé, alors on en parle certainement moins maintenant parce que c'est un mauvais ou un vieux souvenir, mais de l'ascenseur social, c'est-à-dire de dire que cette génération de baby-boomers, c'est une génération qui a pu effectivement se hisser au sein de cet ascenseur social, c'est-à-dire finalement partir avec peu de patrimoine, se constituer un patrimoine et monter dans l'échelle sociale. On dit qu'aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, peut-être depuis les années 90, cet ascenseur social est en panne, qu'aujourd'hui on est bloqué dans la classe de laquelle on est issu. C'est une vraie différence générationnelle.
On le dit beaucoup.
Mais c'est pas vrai.
Beaucoup. C'est assez difficile à évaluer parce que vous voyez, il faudrait suivre des personnes et pouvoir relier, je sais pas quoi, leur niveau de salaire ou leur niveau de réussite sociale, comme vous dites, ou leur niveau de qualification par rapport à celle de leurs parents. Et on n'a pas forcément les statistiques en France pour le faire. Certaines personnes l'ont fait et montrent en effet qu'il y a un ralentissement de l'amélioration du positionnement social, mais ils le font que pour les hommes. Et c'est quand même oublié un des phénomènes quand même marquants de ces 40 dernières années, que je dirais l'ascension des femmes sur le marché professionnel, quoi, sur le marché du travail. Cette amélioration est considérable. Si vous compariez les jeunes filles aujourd'hui par rapport à leur mère, il y a une amélioration qui est considérable. Alors oui, tout ne va pas bien. Hein, et la situation typiquement d'un homme non qualifié va être beaucoup moins bien dans la société que celle de son père.
Cette question des inégalités générationnelles, de la responsabilité, alors avec tous les guillemets qu'il faut des baby-boomers dans la dégradation finalement non seulement de la planète mais finalement de l'état de la société, une génération qu'on dit avoir été très égoïste, elle fait débat dans le milieu des sciences sociales, Hippolyte Dalbis, pourquoi ? Il y a plein de sociologues qui estiment au contraire qu'il y a une vraie responsabilité dans la dégradation, mais aussi finalement dans la fixation d'une certaine norme socioculturelle occidentale de cette génération-là.
Alors déjà, démographiquement, c'est pas une génération qui est très bien identifiée. D'accord ? On dit que c'est souvent les gens qui seraient nés après la guerre. Alors vous voyez, typiquement pendant la guerre, il y a moins d'enfants, donc évidemment, vous ne faites pas des enfants pendant la guerre, donc on était tombé à 450 000 enfants, vous voyez, au cœur de la guerre, puis on passe à 900 000 en 46, si vous voulez, on a 900 000 naissances. Mais ça va durer jusqu'en 73, quasiment. Vous voyez,
c'est, le choc pétrolier. C'est,
oui, mais vous voyez, c'est même pas un boom, quoi. Je veux dire, pendant longtemps, je veux dire, on va y avoir beaucoup d'enfants. Cette rhétorique, en fait, anti-baby-boomer, elle rejoint finalement des penseurs assez libéraux qui sont ceux qui, d'une certaine manière, sont contre la dette. Voilà, l'endettement a servi à financer, en gros, la consommation des baby-boomers, et que cet endettement, il faudra le payer, et que c'est les enfants des baby-boomers qui auront à le rembourser. Et donc, c'est les générations suivantes seront d'une certaine manière sacrifiées, parce qu'elles devront rembourser les dettes des baby-boomers. Néanmoins, bon, c'est quand même une vision extrêmement partiale, c'est un immense débat, c'est sur l'opportunité de la dette publique, mais je veux dire, c'est faire comme si toutes ces dépenses avaient été inutiles et qu'elles n'avaient pas créé, je veux dire, contribué à créer une société qui serait plus prospère, dans laquelle on est mieux éduqué, dans laquelle on vit plus longtemps, etc. Je veux dire, c'est toujours pareil. La dette, elle finance aussi les enseignants, elle finance aussi l'éducation, elle finance l'hôpital, elle finance la santé. Je veux dire, c'est malhonnête que de faire comme si, vous voyez, elle avait financé que le niveau de vie ou des dépenses inutiles qui auraient été celles des baby-boomers.
Merci beaucoup, Hippolyte Dalbis. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris. Les idées claires, c'est un programme proposé par Nicolas Martin, coordonné par Aurélie Boiseau, Luc-Jean Reynaud à la réalisation et aujourd'hui Audrey Guélil à la technique.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.